Médias,
presse,
numérique,
actualité,
reportage,
journaliste,
confiance.
La Fabrique de l'Info.
Bonjour et bienvenue dans La Fabrique de l'Info, une émission consacrée aux médias et aux nouvelles pratiques informationnelles. Comment s'informent les Français aujourd'hui? Comment les médias traditionnels s'adaptent à la révolution numérique? Est-ce que trop d'infos tue l'info? Et comment expliquer la défiance des Français vis-à-vis des médias? Au final, à quoi ressemble la nouvelle ère de l'info? On en parle tout au long de cette émission avec des interviews de journalistes et rédacteurs en chef de France 3, de La Nouvelle République et du magazine Le 7. Anne-Sophie Novel, journaliste spécialiste des médias, nous apportera aussi son éclairage. Une émission préparée par Abou, Ismaël, Mehmet et aussi Victor et Dimitri avec moi en studio. Bonjour.
Bonjour Eric.
Bonjour Eric.
Comment les Français s'informent-ils?
Est-ce que vous vous informez?
Oui, via les réseaux sociaux notamment, les informations à la télé.
Le matin à la télévision. Sur quelle chaîne? BFM TV, News et Antenne 2, peut-être bien, ouais.
Je m'informe sur un média qui s'appelle Libération, c'est un journal qui est sur finalement numérique. Et ça permet de savoir l'actualité du jour.
En général, je regarde le journal de 20h. Sinon, je regarde mon fil d'actualité, pas Facebook, mais mon fil d'actualité des pages sur mon téléphone.
Est-ce que vous vous informez?
Pas vraiment, pas du tout.
Pourquoi?
C'est à cause du temps, il y a tellement des choses à faire et tout que parfois, pour se poser, ça m'arrive souvent, mais bon, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps en fait.
Le matin, j'écoute pas mal France Inter, et puis sinon, je lis Le Monde.
Est-ce que vous trouvez que votre façon de vous informer a évolué?
Oui, avec les tablettes, les téléphones. C'est-à-dire que j'achète plus de journal papier, par exemple.
Via Facebook, notamment, Instagram, on est abonné aux chaînes, hein, BFM.
Oui, moi je m'informe principalement sur les réseaux sociaux, parce que c'est de ma génération. Et après, je regarde aussi les informations à la télé.
Est-ce que vous vous informez?
Oui, Centre Presse. RTL et France 2.
Ah bah via les réseaux sociaux, je pense, comme la plupart des gens. TikTok, Twitter, Instagram, un peu les réseaux sociaux des jeunes.
On vient de l'entendre dans ce micro-trottoir réalisé dans le centre de Poitiers par Abou et Ismaël. Les façons de s'informer ont fortement évolué pour les nouvelles générations. Victor, s'informer passe avant tout par les réseaux sociaux.
Oui, selon une étude de Médiamétrie, sans surprise, aujourd'hui, 70% des 15-34 ans s'informent essentiellement via les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Snapchat pour les plus jeunes. Mais la révolution numérique ne touche pas que la jeune génération, et depuis 2021, l'information numérique dépasse la télévision, qui a été très longtemps le média préféré des Français. C'est ce que révèle une enquête de l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme.
L'histoire des médias et des modes d'information a toujours été directement liée au progrès technique.
Oui, je vais bien sûr mentionner Gutenberg et l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. C'est une première révolution qui rend possible le développement de la presse papier. Le premier journal français date de 1631. C'était un hebdomadaire qui s'appelait de La Gazette. Et on le doit à Théophraste Renaudot. Autre période importante pour la presse, c'est le XIXe siècle et la révolution industrielle, avec le développement des moyens de communication et des moyens de transport. C'est l'âge d'or de la presse écrite. Il faut attendre 1921 pour la première diffusion d'une émission de radio, grâce à un émetteur placé en haut de la tour Eiffel. Et 1927 pour la première émission de télé. Le premier JT, lui, date de 1949. Après d'importants progrès technologiques, pendant la Seconde Guerre mondiale, arrivent les années 60 et les débuts d'Internet, même s'il faut attendre les années 90 pour qu'il commence vraiment à se démocratiser. Et bien sûr, avec les années 2000, c'est l'explosion du web et des réseaux sociaux, aujourd'hui omniprésents dans notre quotidien. Internet va bouleverser le monde du journalisme et du média.
Dimitri, le média traditionnel le plus impacté par la révolution numérique, c'est la presse papier.
Oui, il y a 10 ans, la moitié des Français lisaient leur presse papier tous les semaines. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15%. Je vous propose de prendre la direction de la Nouvelle République du Centre-Ouest, un média né en 1944. Ce sont des résistants qui faisaient de la presse clandestine pendant la guerre et qui ont transformé leur média clandestin en un média officiel à la Libération. 80 ans plus tard, comment s'adapte ce média papier historique? Comment fait-il pour capter des nouvelles générations? On écoute Alain Defaille, directeur départemental de la Nouvelle République Centre-Presse de la Vienne. Il commence par nous présenter le profil des lecteurs de l'ANR.
Ce sont généralement des lecteurs pour le papier qui sont déjà installés dans la vie. Donc nos lecteurs, en général, ils ont de toute façon plus de 40 ans, souvent plus de 50 ans, et pour une grande partie d'entre eux, plus de 60 ans. Ce sont des gens qui sont installés dans la vie. Ça, c'est pour le papier. Mais avec le numérique, nous touchons un autre lectorat qui, lui, est un lectorat beaucoup plus jeune et beaucoup plus mobile. C'est un lectorat trentenaire, de gens qui ont besoin d'une information mobile, rapide. C'est un support qui est en grand développement chez nous, comme dans tous les médias.
Vous adaptez comment face aux nouvelles technologies, tout ce qui est Internet et tout, du coup ?
Alors, effectivement, les nouvelles technologies, ça donne d'autres moyens pour accéder à l'information. Alors, comme l'ensemble des médias historiques, c'est-à-dire que c'est vrai pour la Nouvelle République, c'est vrai pour l'ensemble de la presse, c'est vrai pour la radio et c'est vrai pour la télévision, hein, qui sont les médias historiques, on est tous présents sur le web, nous avons tous nos sites Internet et nous sommes tous présents sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux que la Nouvelle République travaille, c'est principalement Facebook, Twitter, enfin X, ex-Twitter, un peu moins maintenant, pour des raisons qui seraient compliquées à expliquer, et Instagram, qui est un média qui, pour nous, a un gros potentiel de développement. Parce qu'Instagram, c'est de l'image. Et ce que l'on constate, c'est que de plus en plus, les jeunes générations vont chercher l'information par le biais de l'image. L'image, c'est quoi ? C'est l'image fixe, mais c'est surtout la vidéo. On est un média de l'écrit, on aime écrire. La vidéo, c'est une autre écriture. Mais notre vocation, c'est de donner de l'information. Et pour donner de l'information efficacement, il faut qu'on s'approprie tous les moyens qui touchent les gens. Et on sait que la vidéo, c'est un élément important pour toucher les jeunes générations maintenant.
Est-ce que vous pensez que les médias papier sont en train de disparaître, en fait, que voilà, ça va être plus des médias en ligne aujourd'hui, que le papier, bah, bientôt, les gens ne vont plus vraiment s'informer vraiment purement sur du papier, je veux dire.
Il y a une baisse tendancielle du papier, des ventes de papier depuis 1975. Pas nouveau, hein. La clientèle papier va continuer de baisser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le journal papier, tel que vous l'avez sous les yeux tous les jours quand vous l'achetez en kiosque, il est aussi disponible dans cette version sur le numérique. Et c'est même une version enrichie, puisqu'il y a des liens qui permettent, à partir d'un article, de rebondir vers d'autres articles. Donc, le journal, dans sa vision panoramique de l'information, complète de l'information, il n'est pas questionné. Après, c'est une question de support. Mais notre approche panoramique, ça, c'est un vaste sujet, c'est quelque chose en quel on tient, parce que l'intérêt d'un journal, c'est qu'on va chercher l'information qui nous intéresse, mais on découvre aussi d'autres informations auxquelles on n'aurait pas forcément passé, mais qui nous questionnent. C'est le contraire de l'approche un peu plus segmentée, parfois communautariste, de certains réseaux sociaux, où en fait, on va chercher l'information que l'on aime, on n'en trouve pas d'autres, et comme les algorithmes nous pistent, on reçoit toujours les mêmes informations. Ça, nous, notre propos, il est différent.
Est-ce que le bouleversement de la presse papier et son adaptation au numérique a modifié le travail des journalistes ?
On a posé la question à Xavier Benoît. Ça fait 25 ans qu'il est journaliste à La Nouvelle République. Fondamentalement, ça n'a pas changé les bases de son métier de journaliste. Informer, transmettre, des faits vérifiés. Mais quand on lui demande comment a évolué son métier en 25 ans, voilà sa réponse. Une interview réalisée par Abou.
Alors, en termes de polyvalence extrême, c'est-à-dire qu'on est passé d'un journal exclusivement papier à un journal qui a complètement modifié son support, enfin en tout cas qui a appris à découvrir un support qui s'appelle le support numérique. On travaille énormément sur Internet, on a été formé à monter des vidéos, à faire des photos, à partager nos informations sur les réseaux sociaux. Donc on a développé énormément toute cette polyvalence et ça a accru aussi la charge de travail mathématiquement.
Plus de charge de travail et quoi d'autre encore ?
Alors, c'est plus de charge de travail, mais c'est aussi extrêmement intéressant. Quand un journaliste, c'est quelqu'un de curieux. Donc forcément, quand on lui propose des nouveaux outils, il s'implique avec envie. Ça nous apprend aussi à maîtriser beaucoup plus toute l'image fixe, mobile, à découvrir aussi d'autres mondes qu'on n'imaginait pas jusqu'à présent.
Les réseaux sociaux, Internet, est-ce que ça a modifié vos pratiques de journaliste ?
Alors, il y a une chose que ça a modifié fondamentalement, c'est notre rapport à la concurrence avec d'autres médias. Là où avant, on avait toujours un décalage de 12 heures, c'est-à-dire que nous, on faisait uniquement un journal papier et c'était publié le lendemain. Aujourd'hui, on se retrouve, enfin depuis plusieurs années maintenant, on se retrouve en concurrence avec la radio et la télé, puisqu'on travaille en direct. Dès qu'on a une information, dès qu'elle est vérifiée, recoupée, on peut la publier, nous, sur notre site. C'est la grosse différence avec notre pratique qui concernait uniquement le papier avant.
Et l'intelligence artificielle, est-ce que ça a changé votre métier ou comment est-ce que vous le voyez ? C'est plutôt comme un outil ou est-ce que ça vous fait peur ou...
Alors, la peur n'empêche pas le danger. Pour l'instant, on en est uniquement à une phase d'information autour du sujet de l'intelligence artificielle. On appréhende ce qui se passe autour, on observe et on n'en est qu'au balbutiement, c'est-à-dire qu'il va falloir de toute façon qu'il y ait une véritable réflexion à la fois au sein de la Nouvelle République et de la presse écrite en général, et de la presse en général d'ailleurs, hein, même au niveau mondial. Et il faudra certainement peut-être mettre des garde-fous à un moment donné pour qu'on ne retombe pas en tout cas dans les travers qu'il y a pu y avoir entre cette déformation entre la communication, l'information en tout cas pour qu'on ait une traçabilité de l'information. Voilà.
Et avec tous ces changements, comment vous voyez l'avenir de votre métier ?
Bien, je le vois très bien. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'informations. Dans un monde où les fausses informations vont très très vite et où le journalisme a une place essentielle pour contribuer à la vitalité de nos démocraties.
En quoi c'est essentiel ?
Alors, pourquoi c'est essentiel à la vitalité de nos démocraties ? Parce qu'on sent bien des sociétés civiles de plus en plus clivantes avec une montée des populismes un peu partout dans le monde. Les populismes, c'est quoi ? C'est notamment un certain nombre de dirigeants d'extrême droite autoritaires, autocratiques, c'est-à-dire qu'ils sont en train de remettre en cause les principes fondamentaux des démocraties dans le monde. Et la liberté de la presse, les journalistes sont un rempart indispensable à cette vitalité démocratique.
Médias, presse, numérique, actualité,
reportage,
journaliste,
confiance.
La fabrique de l'info.
Payer pour s'informer.
Est-ce que vous êtes prêt à payer pour vous informer ?
Sincèrement, non. Pas en ce moment. La vie est trop dure. Franchement, avec l'inflation, non.
Prêt à payer pour m'informer, non. Pourquoi ? Parce qu'on paye déjà assez comme ça.
Oui, bien sûr. Je crois que c'est le New York Times, par exemple, qui a des enquêtes sur des très longues durées. Bah, ça, il faut bien payer des gens pour avoir le temps de travailler correctement, de vérifier les sources. Donc, ça a un coût. Donc, je suis prêt à dans la limite du raisonnable, mais de payer pour avoir une information fiable et sérieuse.
Est-ce que vous êtes prêt à payer pour vous informer ?
Je pense pas. Je pense que maintenant les médias devraient être gratuits et que les gens devraient être informés gratuitement.
Honnêtement, non, pas vraiment, parce que bon, on arrive quand même à trouver des informations assez facilement et gratuitement. Donc, tout au plus, je me paierais pour me payer un journal, par exemple, si je veux vraiment acheter quelque chose.
Non, je suis étudiant, je suis assez pauvre, donc je me permets pas.
Est-ce que vous êtes prêt à payer pour vous informer ?
Non. Enfin, je paye quand même puisque je suis abonné au journal, mais bon, autrement non.
À quel journal ?
Centre Presse, surtout pour les mots croisés aussi. C'est mon petit plaisir du matin, voilà.
Donc la réponse des Poitevins est assez claire, Dimitri. Il n'y a pas grand monde qui est prêt à payer pour accéder à l'information.
Oui, aujourd'hui, en effet, seulement 11% des Français se disent prêts à payer pour s'informer. Comment un média payant comme la Nouvelle République arrive à s'adapter ? La réponse d'Alain Defaille, directeur départemental de la rédaction.
C'est une question de modèle économique. Et effectivement, notre modèle économique est en train d'évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un groupe comme la Nouvelle République, l'essentiel de nos ressources, l'argent qui rentre, de nos recettes, ça reste le papier. Nous sommes en train de développer un modèle économique, mais qui doit se confirmer sur le numérique, avec en gros un accès abonné et un accès libre pour certains types de sujets. La question, c'est comment, avec cette équation, on peut arriver à un équilibre. Une partie de l'équilibre tient dans l'augmentation du prix du journal. Le prix du journal a augmenté en début d'année. Il est passé à 1,50 €. On est encore très, très en dessous des quotidiens nationaux. Mais pour nous, c'est vital. Nous sommes une entreprise. Nous avons besoin d'avoir des comptes à l'équilibre en fin d'année. Et la question de payer sur l'Internet, ça, c'est une vraie question. Parce qu'effectivement, il y a quelques années, tout était en accès gratuit, en accès libre. Et ça ne peut pas durer parce que l'information, ça a un coût. Une information sourcée, vérifiée, recoupée, c'est du travail et ça prend du temps, ça coûte cher. Et donc, il faut qu'à un moment, les gens qui veulent une information sérieuse acceptent de la payer. C'était le cas autrefois, C'est une tendance qui s'est un tout petit peu perdue, mais les gens comprennent quand même que pour avoir une information sérieuse, ben, de temps en temps, il faut mettre un peu d'argent.
Dans le paysage médiatique poitevin, il y a un média qui fait le choix de la gratuité, c'est le 7. Le 7, c'est un hebdomadaire d'information créé il y a 15 ans et qui couvre le département de la Vienne. Il est tiré à 50 000 exemplaires chaque semaine. Pourquoi ce choix de la gratuité et comment établir un modèle économique viable alors que produire de l'information de qualité, ça a un coût? Dans la perception des lecteurs, la gratuité n'est-elle pas un signe d'une information de mauvaise qualité? Avec Mehmet, on a posé la question à Arnaud Varane, rédacteur en chef du 7.
Alors de prime abord, on pourrait penser que la gratuité est un facteur de mauvaise qualité. C'est souvent l'image que les gens avaient. Nous, on essaye depuis 15 ans de montrer qu'on peut être un journal gratuit, donc accessible et en même temps de qualité, avec une équipe de 4 journalistes qui fait toutes les semaines un boulot formidable dans la recherche de sujets, dans le traitement des sujets et dans l'interaction que ça peut provoquer avec les lecteurs. Donc on bat en brèche cette idée reçue selon laquelle gratuité égale mauvaise qualité. On a fait le choix de la gratuité tout simplement parce qu'on a considéré à l'époque que payer pour s'informer pouvait être un frein. Et donc le modèle économique repose sur les annonceurs. Donc ce sont les entreprises, les associations, les collectivités parfois qui nous permettent de vivre. On commercialise auprès d'eux des modules publicitaires avec le souci d'avoir en moyenne pas plus de 30% d'encombrement publicitaire, donc 70% de contenu rédactionnel.
Avez-vous une indépendance, en fait, auprès des publicitaires? Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir un frein éthique, en fait, sur vos annonceurs?
C'est une bonne question, la question de l'indépendance, effectivement, vis-à-vis des annonceurs, parce que, de prime abord, on pourrait nous taxer d'être en collusion, on va dire, de mèche avec les annonceurs. Nous, on a vraiment le souci d'être les plus hermétiques possibles aux questions liées à la publicité. Et donc, ça veut dire que des sujets qui doivent être traités le seront, même si ils mettent en cause des annonceurs. J'ai beaucoup d'exemples en tête, mais c'est d'abord en fait cette exigence de l'information qui nous guide, et il nous est arrivé de perdre des annonceurs ou de perdre un réseau de distribution tout simplement parce que ce qu'on avait écrit avait déplu à des annonceurs. C'est le prix à payer.
11% des Français sont prêts à payer pour de l'information. Est-ce un avantage pour vous?
Alors, moi, je vois ça plutôt comme un inconvénient pour l'immense majorité des médias qui sont des médias payants. J'aime bien traiter ce sujet-là, ou en tout cas répondre à cette question de manière plus large que simplement pour notre intérêt à nous. On peut le voir comme ça au départ, mais nous, ça fait 15 ans qu'on existe, en fait. Donc, on n'a pas cette problématique de lancement en se disant il y a trop peu de gens qui sont prêts, en fait, à payer pour s'informer. Nous, ce constat-là, on l'a fait déjà il y a 15 ans. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille sur les 89% qui, aujourd'hui, ne sont pas prêts à payer, ne serait-ce qu'un euro par jour, pour pouvoir s'informer et avoir une information de qualité.
Pourquoi c'est important de s'informer ?
Parce que l'information, c'est ce qui nous permet de vivre en commun, de vivre ensemble. C'est d'abord s'enrichir en tant que citoyen, savoir ce qui se passe dans notre environnement sur tous les plans. C'est de pouvoir, pour ceux qui votent, voter de manière éclairée aussi. Et s'informer, c'est tout simplement être un peu plus acteur et un peu moins passif que ceux qui se détournent justement des médias traditionnels et qui se contentent des réseaux sociaux pour finalement se faire abreuver d'une information qu'on n'est pas vraiment une et qui est un peu biaisée parce que l'algorithme du réseau social va vous renvoyer exactement l'information entre guillemets que vous voulez voir ou entendre. Donc c'est aussi pour reprendre son indépendance, s'informer.
Aucun remords, ils commettent des crimes à l'aise. Donc j'écris ma lettre comme un gosse qui crie à l'aide. Y'a rien à crier, mec. Alors on part chasser, Tout le monde qui croque, je vois les microbes qui se font pour chasser. Faut que je trouve la paix, comme Rorono à Zoro. Que ces démarches, que je ramène le Roro à Nono. Récit précis, 310 péripéties, y'a que des loups, Jean Jaurès à Gabriel Péritessi. Fais gaffe, tu vas te prendre un tête bouche. Sans latence, t'es comme moi, si en vacances tu pètes une taille, boude et que t'es debout. Si y'a personne qui t'aide, bouge, fais ton truc à fond. Ils ressentent pas les mêmes choses, c'est un peu comme les ultrasons. Dehors c'est cru, de façon, y'a plus rien, plus de passion, c'est que le bazar. Tu peux t'asseoir sur ta mutation. T'inquiète, nous on demande pas grand chose. Je vais pas te faire un dessin, juste être bien et sain, de quoi mettre bien les siens. J'ai vu des mômes sur des pillages, du mauve sur des visages. Alors maintenant, je mets des mots sur des images, faut que je meure en paix. Qu'est-ce que renferme un cœur en pierre? Moi je suis discret, je parle peu, mais je peux rapper des heures entières. Je suis perdu en politique, sous des traîtres à mon sens. Un mec vrai, tu l'achètes pas, comme le respect et la confiance. Missile placé, je vois les villes s'y passer. Faut être patient car ici bas c'est jamais. Chacun son tour, la retourne, ouais, tenez bon. J'suis dans mon coin silencieux, j'fais ma rébellion. J'sais pas où j'irai, j'oublierai pas d'où je viens. Rarement à jeun, dans la jungle, au milieu des lieux. Chacun son tour, la retourne, ouais, tenez bon. J'suis dans mon coin silencieux, j'fais ma rébellion. J'sais pas où j'irai, j'oublierai pas d'où je viens. Rarement à jeun, dans la jungle, au milieu des lieux.
C'était la pause musicale, vous venez d'entendre l'ESRAM Rebellion. Vous êtes toujours à l'écoute de La Fabrique de l'Info, une émission sur les médias et les nouvelles pratiques informationnelles.
Le manque de confiance envers les médias.
Des médias en France, il y en a des milliers aujourd'hui, Victor.
Alors oui, en effet, entre les médias traditionnels, les chaînes d'info en continu, la presse gratuite, Internet et réseaux sociaux, il n'y a jamais eu autant de médias. Et pourtant, les Français s'intéressent de moins en moins à l'information. Seulement 51% disent suivre l'actualité selon l'enquête de l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme. Ils étaient 63% en 2017. Alors, est-ce que trop d'infos tue l'info? Le point de vue d'Anne-Sophie Novel, elle est journaliste spécialisée dans les médias, autrice d'un guide pratique nommé « Mieux s'informer », paru en 2023 chez Actes Sud. Vous allez l'entendre dans cette interview par téléphone où elle nous parle du phénomène des bouches médiatiques.
Ça, c'est un peu un des paradoxes de notre époque. En effet, il y a énormément de ce que j'appelle moi les bouches médiatiques. Tout le monde nous parle, hein, et dans ces bouches médiatiques, je mets aussi bien les supports de communication, de publicité, que les médias divers et variés très installés, que les nouveaux médias qui se créent, que les réseaux sociaux. Mais tout cela fait une avalanche d'informations, un flux continu qui s'adresse à nous, et notre attention s'éparpille. Et donc il y a ce problème de l'attention qu'on peut y accorder, et puis ce phénomène de fait quand on est assailli d'informations, de perte d'attention, mais aussi de sentiment d'accablement, ce qui fait que beaucoup expriment de la fatigue informationnelle, hein, beaucoup chez les jeunes d'ailleurs, qui se rendent bien compte que tous ces flux d'informations les dépassent. Au-delà de cette fatigue, il y a ceux qui aujourd'hui coupent parce que ça devient trop éprouvant. Et donc, on parle maintenant d'évitement informationnel. Donc, je crois qu'à force de surcréer de l'information, et de l'information en plus qui n'est pas de la même, alors j'ai envie de dire, teneur ou qualité, c'est-à-dire que dans l'information, il y a de l'information originale, de première main, et puis il y a beaucoup de reprises, de redites, des informations qui n'ont pas le même degré de contenu non plus. Hein. On peut avoir des images de chats ou des choses très divertissantes, comme des informations plus fondamentales sur lesquelles il faut se poser, justement. Enfin, tout ça fait une espèce de brouhaha permanent. Certains parlent de l'effet cours de récréation, et donc du coup, pour certains, ça devient intenable. D'où l'importance pour moi de bien prendre conscience de la manière dont on réagit émotionnellement, sensiblement à tout ça, pour ensuite ne plus se faire avoir et ne pas non plus totalement se couper, parce que ne plus s'informer, c'est aussi ne plus s'engager d'une certaine manière dans la société.
Anne-Sophie Novel nous a parlé de fatigue informationnelle. Il y a un autre phénomène qu'on voit émerger, Dimitri, c'est l'évitement informationnel.
Bah oui, Eric. Aujourd'hui, en France, 36% des personnes évitent de s'informer pour différentes raisons. Ils trouvent les informations trop répétitives. Ils estiment que l'actualité a un impact négatif sur leurs humeurs. Ils ont l'impression d'être submergés par le flot d'informations. Et enfin, ils sont de plus en plus nombreux à penser que les médias et les journalistes ne sont pas dignes de confiance. Nous l'avons observé dans les rues de Poitiers.
Est-ce que vous faites confiance aux médias ?
C'est un avis un petit peu mitigé quand même, hein. On est toujours un petit peu partagé, mais après je pense qu'on n'a pas trop le choix, même si on a toujours notre avis personnel sur la question.
Ça dépend lesquels, la télé, je pense qu'on a, j'ai un peu moins tendance à leur faire confiance, mais les réseaux sociaux sur les médias bien plus. C'est assez connu que la plupart du temps la population ne fait pas trop spécialement confiance aux politiciens, donc les médias qui en découlent, dont les médias télévisés.
Moyennement. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus très impartiaux, en fait. Chaque média a ses opinions, et du coup, j'ai toujours vérifié plusieurs pages.
La plupart, il y a des médias où je fais pas confiance, comme BFM TV, mais par exemple, Libération, c'est un média où je fais plutôt confiance, ouais.
Oui. Oui, globalement, je fais confiance aux médias. Après, je sais aussi que tout n'est pas bon à prendre, et je sais prendre du recul sur ce qu'on me dit.
Est-ce que vous faites confiance aux médias ?
Oui et non. Parce qu'ils amplifient quand même parfois énormément la réalité.
Pas trop.
Pourquoi ?
Parce qu'il raconte un petit peu les bêtises.
La France est l'un des pays où la confiance dans les médias et l'information est la plus faible.
Seulement 29% disent faire confiance aux journalistes. Rendez-vous compte, c'est à peine un tiers de la population. Tous les ans, il y a un baromètre dans les médias. Il est réalisé par Kantar Public en partenariat avec le journal La Croix. Que nous dit le dernier baromètre publié en 2023 ? Pour 56% des sondés, les journalistes ne sont pas indépendants des pressions financières, politiques et du pouvoir. Cette défiance vis-à-vis des médias, est-ce que les journalistes la comprennent et comment ils le vivent ? On écoute Clément Massé, journaliste à France 3 Poitou-Charentes.
Est-ce que je le comprends ? C'est difficile, c'est toujours difficile à comprendre parce que je pense que la confusion s'installe à partir du moment où certains médias choisissent de faire de l'information spectacle. Ce que les anglo-saxons appellent de l'infotainment. Et il y a des émissions, il y a des chaînes de télévision qui font aussi une forme d'information qui est éditorialisée. Et donc ça sème le doute. Parce que quand on éditorialise, on exprime un point de vue. Et le journaliste, quand il fait un reportage, il n'exprime pas de point de vue. Il rapporte des faits.
Est-ce que vous le voyez sur le terrain ? Est-ce que vous observez cette défiance ?
Alors, moi, je l'observe peu sur le terrain. Même s'il y a des gens qui peuvent être défiants vis-à-vis des médias, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de nous parler, et personne n'est tenu de parler à un journaliste, de répondre à un journaliste, personne, à part les élus, parce qu'ils représentent le peuple et donc ils doivent des explications au peuple. Voilà. Ils doivent expliquer leur choix, leur vote, justifier leurs décisions, l'utilisation de l'argent public, parce qu'on leur fait confiance pour ça, donc ils doivent justifier de leur action. C'est les seuls. Sinon, le reste des citoyens, un citoyen qui n'a pas envie de répondre à un journaliste, il n'est pas obligé. Il peut, hein, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est nouée. Et moi, je pense que l'enjeu, il est de recréer une confiance entre les citoyens et les journalistes, parce que nous, on fait un métier qui est extrêmement important. La liberté de la presse qu'on incarne par l'exercice de notre métier, c'est la seule des libertés que l'on ait qui permet de vérifier que toutes les autres sont encore appliquées dans le pays. C'est la seule. Et donc, elle est essentielle. C'est-à-dire que si vous voulez vérifier que la justice est rendue de manière équitable au tribunal, eh bien, les journalistes ont le droit d'assister aux audiences. On a le droit d'assister à toutes les audiences, sauf celles qui sont en huis clos. C'est notre liberté. Ça, c'est la première des libertés dans le pays. Et je trouve que celle-ci, c'est celle qu'on doit tous préserver. Parce qu'elle nous permet de vérifier que toutes les autres libertés dans le pays sont appliquées. Et je pense que c'est la marque de confiance auquel les citoyens doivent se raccrocher. Et ils ont le droit de dire aux journalistes, mais vérifiez ça, parce que moi, je ne peux pas le faire à votre place. Et ça m'intéresse de le savoir. Et si vous voulez, la défiance, c'est là où ça revient au début de ce que je vous disais, quand un média éditorialise son propos, ben les gens veulent se dire, ben oui, mais là, il exprime un point de vue. Donc, il n'est plus dans le factuel. Et quand il ne fait que ça, ben, à un moment donné, le téléspectateur, il se dit, mais il me dit quoi, là ? Il me dit la vérité ou il me dit ce qu'il pense ? Donc, il y a un moment donné où le doute peut s'installer. Et pareil, quand on fait de l'info avec un peu de divertissement, il y a un moment donné, on se dit « Ah oui, mais là, il m'a donné une info qui est une vraie info, mais là, il rigole, donc ah oui, mais il blague, parce que, bon, c'est sa manière de me dire qu'il y a un côté rigolo à l'histoire. Donc là, on est plus dans le divertissement. Mais néanmoins, c'est intéressant parce qu'il me raconte une coulisse d'une information. Vous voyez, il faut arriver à faire la part des choses. Et parfois, quand on regarde la télé, Eh ben, ou quand on lit un média qui fait du divertissement et de l'information, on cherche le milieu, quoi. On est où, là? On est dans l'info ou dans le divertissement? Et c'est peut-être là où c'est difficile, où la confiance peut-être parfois se perdre. Et je pense qu'en tant que journaliste, on a une responsabilité de dire, là, je fais de l'information, là, j'exprime un point de vue, et éventuellement, quand on fait du divertissement, là, je fais du divertissement et je m'amuse sur une info qui rigolote.
C'était Clément Massé, journaliste à François Poitou-Charentes. Une interview également réalisée par Abou.
Notre émission touche à sa fin. Un programme préparé par Abou, Ismaël, Mehmet, Victor et Dimitri.
Et Eric.
Une pensée spéciale pour ceux qui n'ont pas pu être en studio aujourd'hui. Vous nous avez beaucoup manqué. N'oublions pas Sandra, Guylaine Didier et Hélène Bagnier, journaliste chez Vivant Média, qui nous a fait découvrir le monde du journalisme. Yann à la technique. Et merci à toute l'équipe de Radio Pulsar pour votre accueil. Et merci à tous nos auditeurs.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci à vous.
Médias.
Presse.
Numérique.
Actualité.
Reportage.
Journaliste.
Confiance.
La fabrique de l'info.